Marc-Antoine Reed, bon mardi matin.
Bon mardi à vous trois.
Comment ça se passe?
Ça va bien, ça va bien.
Ça roule.
Période fiscale, ouais, c'est ça. Un petit peu moins de rendez-vous, plus de demandes.
C'est ce que j'allais dire, pas mal moins de rendez-vous, moins le blitz REER,
ouais,
évidemment.
Ouais, c'est ça, exact. On en fait beaucoup pendant les REER, on le fait beaucoup avant les fêtes, planification fiscale fin d'année. Puis là, c'est plus, un petit peu plus des demandes, tu sais. Je trouve pas mes papiers ou des questions fiscales, des choses comme ça. Mais on est là, puis on aide, puis y a quand même on est quand même occupé, comme à toutes les périodes de l'année.
C'est quoi le moment le plus relax pour toi dans ton domaine?
Ah, je dirais les deux premières, doux, puis entre Noël, puis jour de l'année. Quand on a une bonne clientèle, là, tu sais que c'est quand même ça, une des choses qui est le fun de notre métier, c'est qu'on va un peu au vent de la clientèle. Puis les clients prennent les vacances dans un moment où est-ce que toi, t'aimes que ça soit un petit peu plus relax. Là, ouais. Ces périodes-là sont quand même plus relax. Même entre Noël et jour de l'an, on prend les messages chez des urgences, mais tu sais, dans l'équipe, il n'y a personne qui travaille, puis jamais rien arrivé de besoin, tu sais, qui nécessitait beaucoup de temps. Là, tu sais, ça peut arriver un rachat d'urgence, là, mais on traite ça, mais on travaille pas.
Une autre petite question là-dessus, après ça, on saute dans les dons.
Ouais.
Tu vas aller grimper le Kilimanjaro,
oui,
avec une belle équipe.
Oui, absolument.
C'est au mois de...
Fin septembre, on décolle le 26.
Est-ce que tu capotes d'être parti pendant tout ce temps? Est-ce que c'est un moment occupé à ton bureau?
ça se coordonne bien. Là. Okay. Je vais partir un petit peu moins longtemps pendant les vacances estivales là, pour compenser. C'est une période peut-être pour est-ce qu'on met un petit peu la table, mais ça va bien se gérer. Là. Je dirais passer mi-octobre, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Okay. Là, mi-octobre là, jusqu'au début décembre, c'est une période occupée. Mais non, ça va bien.
Le timing est bon.
J'ai une bonne équipe aussi. Là, on est quatre en place, fait que on part pas les quatre en même temps, évidemment. Là,
ouais. On parle de dons?
Oui, c'est un bon lien avec le défi Kilimanjaro, là, où est-ce que notre cahier de dons pour la Fondation Cerveau là, évolue très bien. En fait, je voulais vous parler un petit peu du budget provincial. J'en ai parlé la semaine dernière. Budget qui a été déposé, mais je dirais l'angle planification financière dans le budget, il est mince pour parler très longtemps. Je peux peut-être souligner deux, trois petites choses, mais il y avait des choses là-dedans qui étaient déjà annoncées. Là. La baisse des crédits d'impôt pour les véhicules, des crédits pour véhicules électriques et hybrides, là, qui ont baissé environ 2 à 3 000 $ là, ouais, dépendamment de quel type de véhicule. Les services de garde, donc, mais tu sais, c'est quand même pas tant de gens, là, tu sais, les services de garde à 15 et 16 ans, il n'y a plus de crédit, ouais, pour ça, là, c'est quand même
minime.
Moi, je pense qu'à 16 ans, mes enfants n'auront pas de crédit de garde.
Non.
Puis s'il y en a, ben, ils vont me chialer dessus.
Non, surtout qu'on l'a gardé pour la clientèle particulière, par exemple, ouais, les jeunes qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme ou qui vivent avec un handicap.
Ouais. Puis après ça, ben, s'il y avait une taxe à l'immatriculation sur les véhicules de luxe là, qui était un peu désuète sur le montant total, les prix des véhicules ont tellement augmenté. Là, ouais, ils ont ajusté le prix du véhicule pour cette taxe-là. C'est des petits trucs que j'ai ressortis, mais sinon, là, c'est un peu plus politique, t'sais, comme nouvelle que d'angle de planification financière, là, où est-ce que peut-être le summum de la planification financière, c'était le budget fédéral de l'année dernière. Là, j'essaie de valider les dates de dépôt du budget fédéral. Là, je ne suis pas certain.
Ça va dépendre, c'est ça. Il y a des élections le 28 avril. Fait que normalement, il y aura le discours du trône, puis après ça, préparation du budget.
C'est probablement que je vais en parler un petit peu plus tard que les autres années.
Plus quelque part en juin. Ça va se faire avant les vacances, mais pas nécessairement à mi-mai. Il va falloir que le nouveau gouvernement s'approprie ce déficit de 60 milliards-là.
C'est mieux probablement comme ça que l'autre... qu'il y ait un budget qui soit déposé puis que ça donne plein d'arguments
exactement
pour lâcher un peu l'autre partie puis mettre le budget à la poubelle.
Oui, puis nécessairement, ça devrait être mieux que le dernier budget de Justin Trudeau. Fait que ça, on va gagner quand même.
Fait que je vous parle un petit peu des dons. Ouais. C'est quand même un peu surprenant, les statistiques qu'on trouve. Là, entre autres, un sondage... qui a été faite de façon très sérieuse en 2023. Les 55% des Canadiens disent donner. Mais quand tu regardes, quand tu te fies au rapport d'impôt, récemment, il y a juste 17,7% des gens qui prenaient déduction fiscale pour don. Puis ça, cette tendance-là, un peu surprenant. Là,
on est une gang de menteurs ou... on fait pas nos demandes.
Moi, je pense que c'est un mélange des deux. C'est très bon commentaire.
Ou tu fais des dons trop petits, ouais, pour aller chercher ton reçu fiscal?
Techniquement, il est juste moins gros, mais tu devrais le déclarer pareil, ton don. Là, on pourrait tenter de défendre en disant, je ne sais pas si vous vous souvenez le petit truc que je vous ai dit, qui pouvait se regrouper sur le même rapport d'impôt pour un couple.
Mais
fait
ouais,
que
je
là,
m'en souviens, ça.
Tu t'en souviens. Hein? Fait que si, mettons que c'était le cas puis tout le monde était en couple, on n'arriverait pas quand même aux 54%. Ça fait que il y a un peu de désorganisation, probablement un peu de dire, oh ouais, je donne. Puis là, finalement, on se rend compte que ça fait peut-être 2-3 ans que la personne qui a répondu oui.
Puis ça se peut un peu comme Joseph, même si on devrait le mettre dedans, peut-être quelqu'un qui a fait un don de 25$, je sais pas, décide, bah, je courrai pas après les papiers, puis je le mets pas dans mon rapport, je sais pas.
Ça se peut, peut-être volontairement.
Premier
peut-être
coupable de ça, moi.
Ouais,
quand je fais des petits dons de même, 20-25$, je vais pas chercher le reçu fiscal.
Ouais. Ben moi, je te suggérerais, vu que t'es un élan philanthropique, donne plus puis garde ton papier.
Oui, en effet.
Si tu vas arriver au même résultat net.
On a raison.
Et plus d'effet pour
ça, la cause. Moi, le problème, c'est que tout le monde est capable de me convaincre avec sa cause.
Oui, c'est ça.
Fait que là, au lieu de dire, je peux pas donner 100$ à 10 causes différentes, mais je peux en donner 25.
Ouais, c'est vrai.
C'est à la fin de l'année que tu connais le total. Ben, si tu ramasses
le papier. Exactement.
Fait que tu sais, on peut donner du vivant puis par testament. Puis comme la plupart des choses, ben si ça se planifie et c'est bien fait, ben ça fait plus de dons pour l'œuvre que qui vous touche ou que vous voulez appuyer. Ou potentiellement un coup net moins grand pour vous, là, ou un mix des deux. Ça fait que je vais vous donner aujourd'hui quelques trucs. Tu sais, un petit rappel, bon, le premier 200$ de dons, le crédit d'impôt est un petit peu moindre. Puis passer 200$, là, ça va jusqu'à 53,3. Mm-hmm. Ça fait que...
C'est pas des tranches. C'est non. En dessous de 200, au-dessus de 200.
Au-dessus de 200, exact. Ça fait que d'où le petit truc que je disais, que vous pouvez les regrouper avec conjoint sur le même rapport d'impôt pour que le premier 200$ soit là juste une fois.
Oui.
Là, fait que tu sais, en gros, il y a des meilleures façons de donner, puis je vous en nomme quelques-unes. Donc, la première chose, là, tu sais, ça s'adresse peut-être aux gens qui ont accumulé certains actifs, tu sais, puis qui c'est pas dans le CELI. Vous savez que si on détient plusieurs choses ou des produits de placement dans des comptes non enregistrés, il peut y avoir de l'impôt, tu sais. Il y a de l'impôt chaque année si ça avait distribué des revenus, puis quand on le vend, du gain capital. Bon, bien, c'est possible de donner des actions ou un fonds de placement directement à la fondation que vous appuyez.
OK.
Et vous n'avez pas la facture de gain en capital. Un exemple que j'aime bien donner, mettons que vous auriez des actions d'Apple depuis très longtemps. Même votre coût de base, il n'est pas de zéro, mais il est presque zéro. Ça a vraiment augmenté beaucoup à travers les années. Si vous avez ces actions-là dans un compte non enregistré, ben si vous les vendez, il va y avoir beaucoup d'impôts. Si vous vendez 10 000 $ d'actions d'Apple, en gros, là, dépendamment de votre tranche d'impôt, la plupart des gens, il va vous rester à peu près 7 500 $ à donner, si c'était votre objectif de donner. Si vous donnez directement les actions d'Apple, vous ne payez pas d'impôts, puis ça fait un reçu pour don. Ça fait 10 000 $ pour la cause, puis ça fait un reçu pour don de 10 000 $ pour vous. Fait que ça fait un coût, tu sais, ça fait en gros, là, si c'était le cas dans mon exemple, ça, j'arrondis, là, tu sais, on ne s'en fâchera pas dans les détails, mais ça fait peut-être un coût aux alentours de 2 500 $ un coût net de 2 500 $ pour avoir donné 10 000 $ pour une cause qui vous est chère.
Cool, hein?
Fait que c'est une belle façon de faire. Il y a des gens peut-être un petit peu plus âgés là, qui avaient des polices d'assurance avec participation, avec des valeurs de rachat. Là, quand les grosses compagnies d'assurance comme Sun Life se sont démutualisées, ils ont reçu un certificat d'action. Certains ont encore ça. Là, le coût de base est zéro là-dessus. Fait que s'ils vendent, c'est tout du gain capital. Fait que ça peut être intéressant d'envisager ça. Donc, de regarder qu'est-ce que vous avez puis de donner quelque chose sur lequel il y a un gain plutôt que le vendre puis donner ce qui reste.
Oui, parce que je trouve que c'est un win-win dans cette situation-là. Puis si tu ne le sais pas, tu le ressors. Tu ressors ton 10 000 qui est juste 7 500. Tu donnes le 7 500 à la cause.
Ben
toi, tu n'as rien eu. De l'autre façon... Tu vas reprendre de l'argent, puis tu donnes le 10 000 au combat.
C'est comme si vous orientez vous-même la facture d'impôt vers la cause qui vous est chère, puis en plus, ça augmente votre crédit d'impôt. Fait que ça, c'était le premier truc à retenir là, avant de faire quoi que ce soit. Si vous êtes dans cette situation-là, consultez quelqu'un qui peut vous guider ou un bon planificateur financier. Deuxième chose, c'est avec de l'assurance. Puis là, l'assurance, ça se divise en deux. Vous pouvez... nommer comme bénéficiaire l'organisme de votre choix.
Ouais.
Un exemple que je verrais souvent, mettons pour X raisons, là, c'est peut-être un scénario triste un peu, mais tu sais, un parent qui avait nommé son enfant comme bénéficiaire d'une police d'assurance, son enfant, il est décédé. Ou il y a une police qui est payée déjà. Il y en a qui, il y a beaucoup de polices d'assurance vie qui c'est payable dans 10 ans ou en 20 ans. puis tu as la police, mais tu peux nommer la personne comme bénéficiaire. Ça, ouais. va faire un gros crédit d'impôt au décès. Puis il y a souvent beaucoup d'impôts au décès. Ça fait que ça va laisser
on le voyait, nous, au patron, pour des personnes seules que le patron avait beaucoup aidé.
Mmh. Oui, c'est ça.
Qui mettait justement le patron comme bénéficiaire là, ouais. de la police d'assurance vie.
Exact.
Parce que ces gens-là, ouais, exactement, ces gens-là, malheureusement, se retrouvaient sans famille.
Ouais. Après ça, vous pourriez aussi le structurer d'une façon différente. Vous pourriez prendre une police d'assurance, mettre le l'organisme sans but lucratif comme propriétaire et bénéficiaire de la police que vous payez. Donc là, à ce moment-là, c'est différent la déduction. C'est la prime que vous payez. Si ça vous coûte 1 000 par année, votre police d'assurance, bien, c'est le 1 000 qui va vous donner un crédit d'impôt, le paiement. Parce que faire attention, c'est qu'après ça, vous ne pouvez pas changer. Ce n'est pas vous qui êtes propriétaire de la police. Ça. Mais ça aussi, c'est un beau geste. Okay.
Une belle façon de donner.
Oui, c'est ça. Si vous retrouvez dans le trouble, vous pourriez arrêter de payer, tu sais, puis avertir l'organisme sans but lucratif. Après ça, ben, d'autres petits points un peu plus vite, deux autres. Vous pouvez le prévoir par testament aussi.
Oui.
Tu sais, dans le fond, on recommande à tout le monde d'avoir un testament notarié puis de le revoir de façon régulière, particulièrement quand il y a des changements importants dans une vie, bien là, vous pouvez prévoir à votre décès qu'il y a tant qui va aller à l'organisme sans but lucratif puis que ça va être en priorité avec des titres, par exemple, qui auraient des gains. Tu sais, il y a des différentes façons que vous pouvez faire ça puis bien, d'être bien guidé là-dessus. Ça, c'est une belle façon. Et le quatrième point, qui est peut-être un peu moins connu, qui existe chez certaines firmes. Nous, on a ça chez nous. On a un programme qui s'appelle Philanthropique. Fait que, mettons, Reg, tu gagnes 2 millions, puis on fait ton plan financier, puis on calcule là, qu'avec 1,5, là, t'en as ben en masse, tu sais, puis t'as une marge de sécurité, puis tout ça, puis tu en as assez pour sortir max une fois de temps en temps.
Ouais, c'est ça.
Yeah!
donc, c'est ça. On pourrait prendre un bon montant, t'ouvrir un programme philanthropique, on choisit le nom que tu veux, là, Fondation Philanthropique, Reg la planche, puis on cède l'argent au compte philanthropique qui porte ton nom, puis là, c'est toi qui gères le capital, on le fait fructifier, mais c'est toi qui gères le capital là-dedans, puis qu'on donne de l'argent chaque année aux causes que tu veux. Puis si dans 5 ans, c'est plus le patron, par exemple, ta cause, puis ça devient une autre, bien là, tu changes les bénéficiaires ou tu peux en donner à deux, puis c'est toujours ton nom de fondation qui appuie puis qui donne.
C'est un peu l'exemple du fonds à Jeff sans avoir gagné 2 millions de dollars.
Exactement.
C'est ça, puis là, ben, quand tu le fais, ben là, dans le fond, quand tu fais le programme philanthropique, tu cèdes la propriété des fonds au programme philanthropique. Donc là, tout ce que tu as cédé, tu reçois tes crédits d'impôt pour ça.
Comme j'ai fait pour le fonds philanthropique Catherine Guillet, je le cède à Québec Philanthrope parce que c'est eux qui sont gestionnaires du fonds. Okay. Et ainsi, le 10 000 $ que j'ai mis de départ, ben là, j'ai reçu mon reçu fiscal
toi,
que je mets pour mon prochain rapport d'impôt.
Tu donnes des orientations à chaque année.
Exactement.
Tu donnes des orientations à qui tu veux donner. Puis,
en plein
puis
ça.
Comment. Ouais, c'est ça. Ouais, si j'avais vu ça sur le chèque Kilimanjaro 2025, justement, ton nom de fondation. Je t'agace.
D'ailleurs, quand on voit, ça s'en vient, le petit don. Là. On commence par annoncer le prochain événement vendredi en Londres, puis après ça, ils vont avoir un don.
Je t'agace, je sais que t'es super généreux. Jeff, c'est une façon de faire allusion au projet pour la Fondation Cerveau. Fait que, dans le fond, là, ce qu'il y a à retenir, là, c'est qu'il y a plein de belles façons de planifier votre générosité pour en faire plus. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là, ces règles-là sont appuyées puis sont réfléchies du gouvernement puis sont permises. Donc, vous pouvez les utiliser pour en faire plus, faire un impact encore plus grand. Fait qu'allez chercher du conseil là-dessus, puis n'hésitez pas.
Si on veut en savoir un petit peu plus sur tout ça ou si on a des n'importe quelle question financière, on peut toujours contacter toi pour ton équipe.
Facile à rejoindre. On a un numéro qui illustre bien le travail qu'on fait avec chacun de nos clients, c'est-à-dire des plans financiers, de la planification financière. 1-833-TON-PLAN. Sinon, vous pouvez nous googler équipe Marc-Antoine Rie d'REID. Vous allez tomber, entre autres, sur notre site où est-ce que vous pouvez prendre contact ou sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on repartage les chroniques, mais vous pouvez aller directement sur le site qui est très bien fait pour écouter ces chroniques-là puis les petits trucs fiscaux, entre autres, là, qu'on a donnés il y a 2 semaines.
Bien sûr, le blvd.fm. Marc-Antoine Reed passe une super semaine.
Ben oui,
on s'en parle mardi prochain.
Aussi, on s'en voit mardi prochain.
Cool. Max, une nouvelle Canadien de Montréal?
On attendait la signature de Jacob Fowler, le gardien universitaire. C'est pas ça qui vient d'arriver.
Non!
Ivan Demidov qui s'amène à Montréal.
Oh!
Ah ben oui,
on l'attend. En pleine course aux séries.
On l'attendait pas cette année. Et là, finalement, quitte le SKA Saint-Pétersbourg, s'amène à Montréal. Ivan Demidov.
Est-ce qu'il va jouer ce soir?
Poisson d'avril.
En plus, moi, en plus, qu'est-ce que je suis comme... OK, mais c'est cool. Les amis canadiens, les amis fans du Canadien...
Ça aurait été
vont...
gigantesque.
Ah non, c'est immense, là.
Là, j'avoue que
c'est
je me suis fait pogner par son poisson d'avril pour la première fois de ma vie.
La
rouche, t'es solide.
Aïe, 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 aïe.
Ah non, t'es solide.
Ouais, là,
tu veux bon, la course aux séries du Canadien.
Il s'est finalement fait prendre par un poisson d'avril.
Fait que non, Ivan Demidov, ça mène pas. Par contre, ça se peut pour vrai que Jacob Fowler, le gardien, lui signe dans les prochaines heures à Montréal. Puis là, attention, même pour être sûr, là, mais ça, c'est une réelle possibilité parce que son équipe est éliminée puis on est dans les technicalités.
On va vraiment parler du vrai match du Canadien ce soir dans cette course aux séries après la pause. On s'arrête 2-3 minutes.